Alors bien sûr, aujourd'hui, c'est ce jour de célébration de la fête des pères. Et moi, je suis reconnaissant pour l'exemple de mon père et celui de mon beau-père aussi, hein, que je connais depuis bien avant même qu'il soit mon beau-père. Mais de voir leur exemple et de voir leur amour pour le Seigneur, c'est quelque chose qui m'a toujours encouragé et aussi interpellé dans ma propre vie. Alors bien sûr, ce matin, le thème de ce message va tourner autour de l'honneur. Hein, aujourd'hui, c'est la fête des pères et bien sûr, la parole nous enseigne d'honorer nos parents. Mais je crois que la plus grande leçon aussi, c'est que, avant toute chose, eh bien, que nous sachions honorer Dieu. Et on peut le faire justement en honorant, eh bien, nos parents puisque telle est sa volonté. Aujourd'hui, on vit à une époque où le constat est assez accablant, assez triste. Hein, on voit que la structure familiale qui existe depuis des millénaires, cette structure, elle est remise en question, elle est redéfinie, elle est voire même critiquée, hein, vertement. Et ces critiques, hein, de ce format familial que beaucoup vont qualifier de traditionnel, oui, sont nombreuses. Et dans une certaine mesure, je peux comprendre ces critiques à cause, eh bien, des dérives et à cause des abus qui sont indéniables et que nous pouvons constater chaque jour, même dans notre société. Cependant, ce qu'il nous faut voir aussi, c'est que cela n'est pas lié au format lui-même. Ce n'est pas lié au schéma, à la structure. C'est lié surtout à l'incapacité ou au refus de l'être humain de suivre les directives morales qui permettent à ce format de pouvoir bien fonctionner, d'avoir du succès. Mais c'est surtout, eh bien, l'absence, on va dire, de ce qui constitue la force, de ce qui permet d'avoir, eh bien, ce cadre familial qui, eh bien, soit fonctionnel. Ainsi, on prend, pour tous ceux qui ont déjà mis ensemble des meubles, hein, qu'ils ont achetés au magasin, celui qui va s'efforcer de mettre ensemble un meuble en se basant uniquement sur la photo. Hein, il achète le meuble, il voit la photo sur la boîte et dit, bon, là, il y a toutes les pièces, etc. Je vais réussir en regardant la photo et puis si je m'en rapproche, ça sera déjà assez bien. Mais voilà, il ne va pas chercher à lire les instructions. Il va pas nécessairement employer les outils nécessaires pour mettre ensemble ce meuble. Et lorsqu'il n'y parvient pas, lorsque le résultat est très loin de la photo, ou que le meuble ne tient pas parce qu'il n'a pas suivi les instructions qui ont été données avec, est-ce que cette personne est en droit de blâmer le fabricant? Est-ce qu'il est en droit de blâmer le fabricant quand celui-ci, hein, a fourni les instructions, a donné les conseils de comment monter ce meuble, hein, celui qui l'a conçu, il sait comment le meuble doit être monté. Est-ce qu'on peut vraiment blâmer le fabricant pour cela? Et même si, voilà, la personne feuilletait rapidement la notice et déciderait que, tiens, je préfère plutôt utiliser cette pièce-là, ou bien je préfère plutôt utiliser ce genre de vis, ça conviendrait mieux. Est-ce que, à la fin, si cette structure ne tient pas, est-ce qu'il peut vraiment légalement blâmer le fabricant pour cela? Non. Et même si éventuellement, malgré le rejet des instructions, hein, du modèle qui est donné, il parviendrait à assembler quelque chose de fonctionnel, le jour où il y a quelque chose qui ne va pas, est-ce qu'il peut bénéficier de la garantie s'il n'a pas fait les choses dans les règles? Donc on comprend bien que, en ce qui concerne cette structure de la famille, le rôle dans le cadre de la famille, ça a un impact considérable dans notre vie, dans la société. L'histoire témoigne de cela, mais on comprend que lorsqu'on va chercher à appliquer des méthodes humaines ou utiliser la force humaine, les moyens humains pour rendre quelque chose de fonctionnel sans suivre les instructions, eh bien, ça va pas forcément fonctionner. Et même si ça peut fonctionner, on rate le coche. On rate le coche d'avoir vraiment fait selon les instructions. Il y a un historien de l'université d'Harvard, du nom de Stephen Osmond, qui a fait ce constat par rapport à cette structure de la famille. Laissez-moi juste lire cette citation. Pour une époque moderne confrontée à une crise familiale, l'histoire retrouvée de la famille apporte une lueur d'espoir. Cette institution, la plus petite et apparemment la plus fragile, se révèle être à la fois le fondement et la faille de l'humanité. Sa force réside dans la cohésion et la loyauté de l'unité parent-enfant autour duquel gravitent nécessairement les sphères les plus vastes du foyer, de la parenté, de la communauté, de la nation et du village planétaire. Et parmi ces différents mondes sociaux, seule la famille donne vie et stabilité aux autres. La famille est la grande survivante au milieu des époques et des cultures changeantes qui l'enveloppent, la façonnent et la mettent à l'épreuve un temps avant de disparaître. Alors on sait que depuis plusieurs années maintenant, on a vu cette structure être complètement chamboulée et même décriée par beaucoup de personnes. Mais voilà, je crois que nous, en tant que chrétiens, eh bien, nous pouvons être une lueur d'espoir aussi par rapport à l'exemple que nous donnons dans notre vie de famille. Nous pouvons, par notre choix de vivre selon les directives divines en matière de famille, être cette lumière dans ce monde de ténèbres. Mais l'impact le plus important, et ce pour lequel nous devons nous efforcer de suivre ces instructions de la part de Dieu, eh bien, c'est déjà la famille elle-même, c'est la vie en Christ. Et c'est de vouloir être aussi fidèle à Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, notre désir, notre objectif de vie, eh bien oui, doit être de suivre la parole de Dieu, de connaître sa volonté et de l'accomplir pour sa gloire, mais aussi pour notre bénéfice. Alors je vous invite, oui, à ouvrir vos Bibles ce matin dans l'épître de Paul aux Éphésiens, et nous allons aller dans ce passage que tout le monde connaît bien, d'Éphésiens chapitre 6. C'est une épître qui, dans son ensemble, parle vraiment de l'Église, toute la doctrine de l'Église, des relations dans l'Église. Mais dans les chapitres 5 et 6 de cette épître, eh bien, Paul présente ce qu'on pourrait qualifier le caractère que doit avoir l'Église de Christ, son caractère. Mais il explique également que dans le sein de l'Église, il y a différentes relations qui existent. Et donc, il parle de ces choses-là, il parle de la famille, il parle des relations professionnelles, etc. Et après avoir donc expliqué les responsabilités au chapitre 5, la responsabilité au sein du couple, eh bien, au chapitre 6, eh bien, il va parler de la famille et des responsabilités des uns et des autres dans le cadre de la famille. Donc Éphésiens chapitre 6, et on va lire les versets 1 à 4 ce matin. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Donc oui, en tant que chrétien, frères et sœurs, je crois que c'est important pour nous de résister à la pression du monde, de suivre le plan de Dieu pour le cadre de la famille, et que nous le fassions pour sa gloire, mais en comprenant aussi qu'il y a des bénédictions, il y a des bénéfices pour nous lorsque nous nous attachons à suivre ce schéma. Et pour ça, donc, on va regarder à plusieurs choses ce matin, mais je crois que la première, puisque c'est celle que Paul énumère en premier dans ce passage, c'est la responsabilité de l'enfant. Souvent, on pense que ben, l'enfant, voilà, c'est un être qui est immature, c'est un être qui doit apprendre encore beaucoup de choses, il n'a pas forcément énormément de responsabilités, mais le fait est qu'aux yeux de Dieu, chaque enfant a une responsabilité et une responsabilité spirituelle vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de ses parents. Et donc oui, ici, l'apôtre s'adresse tout d'abord aux enfants. Et le mot que Paul emploie ici dans le grec, c'est le mot techna. Et Chose intéressante, ce terme désigne non pas des enfants par rapport à leur âge, mais par rapport à leur filiation. C'est-à-dire que, en tant qu'enfant, même adulte, on a ici un enseignement pour nous qui est important. Ici, c'est la relation entre parents et enfants, peu importe l'âge. Et là, Paul, oui, les appelle à la soumission. Alors oui, je sais qu'aujourd'hui, le terme soumission a cette notion péjorative, négative, mauvaise, mais la soumission que les Écritures enseignent, ce n'est pas une soumission qui est forcée, tout d'abord, c'est une soumission qui est volontaire. La soumission signifie de se placer volontairement sous l'autorité de quelqu'un. Et dans de nombreuses situations de la vie de tous les jours, on peut comprendre aisément l'importance du rôle de la soumission pour le bénéfice de la société, mais aussi de nous-mêmes, puisque nous faisons partie de la société. On doit par exemple se soumettre aux lois qui sont là pour protéger l'ensemble des citoyens. On comprend aisément que s'il y a quelqu'un qui ne va pas se soumettre aux autorités et qui va traverser un feu rouge à 110 km/h en ville, on comprend que les risques pour les autres sont énormes. Les risques pour cette personne qui conduit aussi sauvagement sont énormes également. Mais on comprend que dans notre société, il y a des relations où chacun d'entre nous, nous devons nous soumettre aux autorités. Paul en parle dans l'Épître aux Romains, de nous soumettre également à ceux qui sont nos employeurs. Et Paul en parle un peu plus loin dans ce chapitre 6. Mais bien qu'une personne dans notre vie puisse avoir de l'autorité sur nous, il faut bien comprendre une chose, c'est que cela ne nous rend pas inférieurs dans le sens où nous valons moins qu'eux. Jésus lui-même, Dieu fait chair, le Créateur tout-puissant de l'univers, est lui-même un modèle de soumission, alors qu'il est Dieu. Okay? Bien que Dieu, tout d'abord, il a volontairement accepté de devenir un être humain, de vivre au niveau le plus bas de la soumission, sous l'autorité même des oppresseurs romains, je vous le rappelle. Bien que Dieu, Jésus, il a aussi obéi à ses parents. Des parents imparfaits, des parents pécheurs, il leur a été soumis. Bien que Dieu, Jésus a aussi reconnu l'autorité de Jean-Baptiste pour le baptiser. Bien que Dieu, Jésus s'est humilié en lavant le pied et les pieds de ses disciples. Et aussi, bien qu'égal au Père, lorsque l'on comprend cette doctrine de la Trinité, Jésus a constamment montré son engagement à vouloir toujours faire la volonté de son Père, n'est-ce pas ? Relisez les évangiles, on voit ça de manière évidente. Et pourtant, oui, les Écritures nous enseignent que, comme Jésus lui-même l'a déclaré, lui et le Père sont un. Alors, on comprend que même quand on a un être qui est Dieu, qui est supérieur en toutes choses, il a accepté volontairement de se soumettre à celui qui lui était égal, le Père, de se soumettre à ceux qui leur étaient, mais alors entièrement inférieurs, parce que ce sont des créatures pécheresses, des créatures temporelles. On peut ici voir et comprendre que la soumission n'est pas quelque chose qui nous amène à être considérés comme des moins que rien, comme des inférieurs, sans la même valeur que l'autre personne. Comprenons bien que cette soumission, selon la Bible, consiste donc à volontairement vouloir accomplir avec humilité, cette humilité que nous trouvons en Jésus-Christ, de reconnaître qu'il y a des rôles, qu'il y a des responsabilités que Dieu a assignées à plusieurs dans le cadre de la famille, qu'il a établi cette structure dans laquelle il existe, oui, une autorité. Donc les enfants, ici Paul nous montre que nous devons nous placer sous l'autorité de nos parents, et il le montre de deux manières ici. Tout d'abord, il dit « Enfants, obéissez à vos parents ». L'obéissance aux parents. Et on sait que c'est quelque chose qui est difficile que l'obéissance. Pas simplement l'obéissance envers les parents, mais l'obéissance à toute autre personne. Hein, l'obéissance aux instituts et aux profs, l'obéissance aux autorités, etc. C'est quelque chose que notre nature pécheresse, eh bien, va combattre naturellement, parce que c'est le péché qui veut chercher, qui veut susciter en nous, pas simplement cette idée d'indépendance, mais c'est l'idée que nous, finalement, nous sommes supérieurs à ceux qui exigent quelque chose de nous, et nous n'avons pas à les écouter. Ça, c'est le mensonge de l'adversaire, n'est-ce pas? Il s'agit donc ici de comprendre ce qu'est aussi cette obéissance. Le mot que Paul emploie ici dans le grec, littéralement, ça veut dire « écouter sous », c'est-à-dire se placer sous une personne et de l'écouter. On a vu dimanche dernier la différence entre entendre et écouter. Et on a bien compris que la notion attachée au mot écouter, c'est oui, de prêter l'oreille et l'attention à quelqu'un, mais effectivement de faire ce que cette personne nous demande. Et c'est pour cela que c'est traduit par ce mot en français, ce verbe obéir. Il s'agit donc d'être à l'écoute, d'être attentif et d'être obéissant à ceux que Dieu a placés comme autorité dans notre vie, dans le cadre de la famille. Et donc les enfants, oui, doivent être à l'écoute afin de pouvoir obéir, d'obéir correctement en toute chose à leurs parents. Mais notez bien ici que ça concerne les actions. C'est-à-dire que ce qui nous est demandé de faire, eh bien effectivement de le faire. Mais Paul aussi, dans ce même passage, eh bien, on va parler de l'attitude. L'attitude qui est tout aussi importante. Cette attitude que les enfants doivent avoir envers leurs parents est tout aussi importante que l'obéissance. Verset 2, « Honore ton père et ta mère ». C'est le premier commandement avec une promesse. Là encore, le mot que Paul emploie dans le grec, c'est le terme « timao » et qui signifie « estimer le prix ». Estimer la valeur de quelque chose. Et donc la valeur ici amène à honorer, amène à élever la personne en question. Et c'est ça qui va amener donc ce respect profond. Honore ton père et ta mère, c'est d'estimer le rôle qu'ils ont. Et notez bien, j'insiste sur le rôle qu'ils ont. Pas forcément leur témoignage, ou leur aptitude, ou leur capacité à être de bons parents, mais d'honorer la responsabilité que eux-mêmes ont envers les enfants. Dans le Nouveau Testament, d'ailleurs, ce même mot est souvent employé pour exprimer la révérence, la haute considération, l'honneur qui sont dus à Dieu le Père et à Jésus-Christ. Alors, ça ne veut pas dire que les enfants doivent considérer les parents comme des dieux. Non, ce que Paul montre ici, c'est que on doit avoir une haute estime de ce que sont les parents par rapport à celui qui les a placés, à savoir Dieu. Il s'agit ici d'un commandement qui est fondamental. 8 fois dans les Écritures, cet ordre, ce commandement est donné, d'honorer nos parents. Et bien sûr, on le retrouve tout d'abord dans les 10 commandements. Et c'est intéressant parce que dans les 10 commandements, on le trouve vraiment dans la position, dans cette charnière. Cette charnière entre tous les commandements qui concernent la relation de l'être humain avec Dieu et ensuite les commandements qui concernent la relation avec les êtres humains. C'est le premier commandement concernant la famille. Et comprenez bien que quand Paul ici, il commence par les enfants, c'est pas parce que c'est eux qui en ont le plus besoin, c'est pas parce que eux, eh bien, ils ont besoin d'être corrigés, etc., et puis il faut leur montrer qu'ils ont besoin d'obéir. Non, c'est parce que votre rôle est important, tout aussi important que celui des parents. On comprend bien que l'atmosphère qui va régner au sein d'une famille va dépendre en grande partie, eh bien, de la réaction de l'enfant lorsqu'il lui est demandé de faire quelque chose. La réaction, l'obéissance et le respect que vous portez à vos parents, ça va beaucoup jouer dans l'atmosphère qui va régner dans le cadre d'une famille. Donc le verbe honorer, Ici, oui, il est formulé un impératif qui est un impératif présent, qui est au singulier, et donc il s'adresse vraiment à chaque enfant individuellement. Hein, enfant, obéissez à vos parents, et là, ici, au verset 2, eh bien, ici, honorer, c'est quelque chose où il s'adresse individuellement. Honore ton père et ta mère. Ça signifie que nous tous, même nous qui sommes adultes, nous devons honorer individuellement, continuellement honorer nos parents et que ce soit une habitude de vie. Alors, il est évident, bien sûr, que l'enfant qui désobéit à ses parents, qui est effronté, qui les insulte, qui leur ment, qui les frappe, et ça, on en voit beaucoup à la télévision, dans beaucoup de documentaires, c'est effroyable de voir cela dans notre société autour de nous. Il est évident que de tels enfants n'honorent pas leurs parents. Honorer ses parents, hein, même lorsque l'enfant est adulte, va consister aussi pour nous de prendre soin de nos parents, de bien témoigner aussi de qui ils sont et de ce qu'ils ont fait pour nous et de remercier le Seigneur pour cela. Mais de prendre soin pour nos parents, c'est quelque chose qui est important, c'est une manière d'honorer également le travail qu'ils ont accompli, malgré le fait que, tout comme nous, ce sont des personnes pécheresses, sauvées par la grâce de Dieu. Lorsque Paul a écrit à Timothée dans sa première épître au chapitre 5, au verset 8, il a bien signifié ceci à Timothée. « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. » C'est-à-dire que si même nous, en tant qu'adultes, nous n'honorons pas, nous ne prenons pas soin de nos parents qui sont âgés, notre témoignage, eh bien, s'aligne à celui de quelqu'un qui a renié la foi et qui est pire qu'un infidèle. Alors oui, honorer les parents, obéir les parents, eh bien, dans le meilleur des cas, oui, c'est facile. Dans la réalité, on comprend bien que, eh bien, nous avons des parents qui sont faillibles, nous avons des parents qui ont fauté, nous avons des parents qui ont chuté, nous avons des parents qui parfois ont donné le mauvais exemple, qui parfois ont mal réagi, qui parfois ont eu les mauvais propos. Il est possible que certains d'entre vous aient eu affaire à des parents qui n'ont pas agi de manière honorable envers vous. Certains ont des parents alcooliques, certains des parents addicts, certains ont été abandonnés, certains ont été maltraités par leurs parents. Et donc la question se pose ici, effectivement, dans quelle mesure, dans ce genre de cas, on comprend la difficulté de respecter cette personne, dans quelle mesure est-ce qu'on peut quand même obéir à Dieu, d'être obéissant et d'honorer de tels parents? Je crois que si nous sommes engagés à vouloir d'abord honorer Dieu, ça va nous aider à honorer des parents même de ce genre-là. On peut honorer le rôle que ses parents ont. Pourquoi ? Parce que c'est une fonction qui est établie par Dieu. Ailleurs dans les Écritures, lorsque Paul il parle justement de la soumission et l'obéissance aux autorités, il indique bien la raison pour laquelle nous devons le faire, parce qu'elles ont été instituées de Dieu. Ce n'est pas parce que ces autorités sont bonnes ou sont chrétiennes qu'il faut les honorer et obéir. Non. Toutes les autorités instituées par Dieu. Dans le domaine de l'art, le prix de certaines œuvres peuvent atteindre des sommes astronomiques. La rareté, la beauté, la technique, l'attrait aussi d'une œuvre, ils sont pour beaucoup de choses. Mais souvent, un chef-d'œuvre est reconnu comme un chef-d'œuvre, comme inestimable, à cause de celui qui a peint, du maître qui a peint le tableau, par exemple. Alors oui, il y a certains faussaires qui parviennent à copier. Ils arrivent à copier un chef-d'œuvre. Ils ont étudié minutieusement le tableau, ils ont employé les mêmes techniques que le peintre, et ils arrivent à exécuter une œuvre qui ressemble trait pour trait à l'original. Et ce, au point de tromper parfois même des experts dans le domaine de l'art. Et il s'est arrivé plusieurs fois même que des personnes aient acheté des œuvres pensant qu'il s'agissait de l'original pour apprendre des années plus tard, en fait, qu'il s'était fait escroquer. Mais lorsque la supercherie, elle est découverte, ce tableau qui, peut-être, quelqu'un l'a payé 500 000 euros, une fois la supercherie découverte, quelle est la valeur du tableau ? Elle est quasiment nulle, d'accord ? C'est déjà arrivé également que des personnes qui possédaient un chef-d'œuvre chez eux, sans le savoir, eh bien, s'en débarrassaient, pensant que bon, c'était quelque chose de très peu de valeur. En 2016, il y a un antiquaire ayant du flair, il a ainsi acquis un tableau dans un vide-grenier dans le Minnesota pour la somme de 50 dollars, d'accord ? Et après des études et des analyses, les experts ont confirmé qu'il s'agissait d'une œuvre originale de Vincent Van Gogh. Et ce tableau, aujourd'hui, est estimé à plus de 14 millions d'euros. Donc quand on connaît l'identité de l'artiste, le tableau révèle sa valeur. Alors même si vous pensez que vos parents ne méritent pas l'honneur, comprenez ceci, vous pouvez vous efforcer de les regarder en rapport à l'artiste, en rapport à celui qui a mis cette fonction, cette responsabilité, qui a institué la famille, la structure et les cadres dans cette famille. Mais je dois aussi souligner le fait que, et nous ne le voyons pas dans ces versets, mais dans d'autres passages des Écritures, que même dans les cas les plus difficiles, dans les relations parents-enfants, nous avons un Dieu qui est un Dieu de justice, nous avons un Dieu qui est un Dieu de grâce, et qui met des protocoles de sécurité aussi. Lorsque il y a ces situations où il y a de mauvais parents, des parents qui agissent de manière ignoble envers leurs enfants, alors à quel point devons-nous obéir, à quel point devons-nous honorer ? Alors oui, ça serait plus simple que Dieu nous demande d'honorer les parents qui sont de bons parents, d'obéir à des parents qui sont bienveillants, qui sont aimants. Mais voilà, comme Paul l'a rappelé aussi dans Colossiens 3:20, nous devons obéir en toutes choses à nos parents. Et c'est là où il y a cette question, vraiment en toutes choses. Pour beaucoup de personnes qui ont été blessées par des parents, ces paroles peuvent sembler dures, même impossibles à exécuter. Faut-il honorer, obéir à des parents maltraitants, mauvais ? Y a-t-il une limite ? Notez ici, dans le passage d'Éphésiens 6, que Paul va déjà donner cette indication. Selon le Seigneur, cela est juste, que nous devons obéir selon le Seigneur. L'autorité suprême que nous avons dans les Écritures, dans la vie, c'est Dieu. Dieu a également établi ce que j'appelle ce protocole de sécurité, cette clause de protection qui concerne nos rapports aux autorités, même ceux qui sont dans notre vie, dans le cadre familial. C'est se résume ainsi. Nous devons obéir à nos parents dans la mesure où ce qu'ils nous demandent ne constitue pas un péché. Dans le livre des Actes, je crois que cela s'est démontré avec l'exemple de Pierre et de Jean, lorsqu'ils sont arrêtés pour avoir prêché Christ et que le Sanhédrin leur ordonne d'arrêter de prêcher Christ, leur réaction c'était quoi ? Il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et donc dans la mesure où ce qu'un parent nous demanderait de faire, eh bien rentre en conflit avec la sainte nature de Dieu, rentre en conflit avec la volonté première pour tous les êtres humains de vivre dans cette sainteté, de rejeter le péché, alors là, il nous faut obéir à Dieu et ne plus obéir à cet ordre qu'un parent pourrait nous donner, qui constitue un péché. Dans les cas d'abus, il est essentiel, et ça je tiens à le souligner, de prendre contact avec des personnes qui sont là pour aider, d'en parler, que ce soit avec moi ou avec Philippe, de parler hein, au service approprié, hein, mais aussi difficile que cela puisse paraître, dans toutes ces situations-là, même si nous n'avons plus à obéir à nos parents, on doit continuer de les aimer. Et on doit continuer d'honorer ce rôle qu'ils ont. Pourquoi? Parce que leurs péchés ne doivent pas être la condition de cela. Dieu nous aime sans condition, n'est-ce pas? Christ est venu sur terre donner sa vie alors que nous étions pécheurs, n'est-ce pas? Mais de nous rappeler que Dieu ne laisse pas le péché impuni. Et c'est là peut-être la difficulté, que ce soit pour les enfants ou même pour les adultes, c'est de placer notre foi, confiance, dans la justice de Dieu. De ce qu'il nous dit dans les Écritures, que immanquablement, tout être humain, depuis le commencement jusqu'à la fin, seront jugés par Dieu et la justice parfaite de Dieu sera appliquée. Je tiens aussi à préciser ceci par rapport, eh bien oui, à mon rôle et à ma responsabilité ici au sein de cette assemblée, c'est que s'il y a un cas d'abus physique avéré qui viendrait à ma connaissance, en tant que chrétien et en tant que pasteur et puis même en tant que citoyen, la protection de la victime sera ma priorité. D'accord ? Tout ce qui va constituer un acte de malveillance et qui, oui, enfreint la loi, fera tout d'abord de ma part l'objet d'une intervention spirituelle hein, au sein de la famille et dans laquelle je donnerai la possibilité à la personne responsable de confesser son péché, de se repentir, mais aussi dans la situation où c'est quelque chose qui est répréhensible par la loi, oui, eh bien, de se rendre aux autorités et avouer ce qu'il a fait aux autorités également. Je crois qu'il faut bien comprendre aussi une chose, c'est que le pardon, oui, est possible, et que nous, dans notre vie chrétienne, l'exemple que nous voulons et que nous devons suivre, c'est celui de Christ, c'est celui de Dieu, et que même lorsque Dieu nous a pardonné de nos péchés, il y a toujours des conséquences, n'est-ce pas? La conséquence la plus importante, c'est que ben, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, c'est-à-dire que la condamnation éternelle n'est plus là. Mais les conséquences restent là. Hein, nous sommes toujours des êtres mortels, nous sommes toujours des êtres qui sont soumis aussi hein, aux aléas de la santé ou de la mauvaise santé. Donc comprenons bien qu'il y a des conséquences qui restent, même lorsque le pardon est accordé. Et je crois que dans la mesure où nous, en tant que chrétiens, et ce, peu importe hein, la loi que nous aurions enfreinte ici-bas, sur Terre et dans la société dans laquelle nous vivons, si nous avons enfreint la loi, nous devons accepter les conséquences qui viennent avec également. Et donc oui, moi, j'aurais cette obligation spirituelle, morale, de signaler tout acte de ce genre-là auprès des autorités, hein, dans la mesure où si cette personne ne le fait pas d'elle-même, j'aurai cette responsabilité-là. Et je le ferai pour plusieurs raisons. Un, pour protéger la victime. Deux, pour protéger aussi cette Église. Rappelez-vous de ce que Christ a dit. Matthieu 18, 6, pour comprendre le sérieux de tout ceci. « Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. » Voilà le sérieux avec lequel nous devons prendre ces choses. Mais ceci étant dit, nous avons tous de quoi pouvoir honorer le rôle parental hein, qui a été créé et institué par Dieu. Et c'est ce qui doit justement nous motiver à agir selon les Écritures hein, qui nous est donné ici, hein, dans ce passage d'Éphésiens 6. Mais je veux souligner aussi une deuxième chose. Qu'est-ce qui va nous motiver vraiment à vouloir obéir et à vouloir honorer nos parents? Ici, oui, Paul dit « Obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste ». Dans le verset suivant, hein, « Honore ton père et ta mère », c'est le premier commandement avec une promesse. Et la promesse il la donne au verset 3, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur terre. Dans Colossiens 3, 20, hein, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. Paul a toujours donné avec ces commandements-là une motivation pour agir ainsi. Tout d'abord, ce qui est juste. Nous sommes tous appelés à vivre pour Dieu et selon sa volonté qui est bonne, agréable et parfaite, à rechercher et à appliquer sa justice. Nous voulons la justice. Mais la justice aussi selon Dieu, c'est que eh bien, nous nous soumettions, nous, à sa volonté, à lui, à ses commandements, et que nous fassions ce qu'il nous demande. Un Michée 6-8, hein, pour ceux qui connaissent ce verset, on le chante quelquefois, « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi. » C'est quoi? C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Et voilà donc ce que nous sommes tous appelés à suivre et à avoir comme objectif de vie. L'obéissance aux parents est quelque chose de juste, car c'est Dieu qui le demande. D'ailleurs, le terme que Paul emploie ici dans le grec désigne ce qui est droit, ce qui est conforme, ce qui est supposé être, ce qui doit être. Comprenez bien ceci, la structure que Dieu donne dans ses Écritures est quelque chose de bon parce que ça vient du Dieu qui est bon. Et Dieu ne peut pas être blâmé lorsque l'être humain pécheur ne suit pas les règles établies par Dieu, va suivre le péché et donc provoquer des abus, des dérives et donner à cette structure une image qui est mauvaise à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Celui que nous voulons honorer avant tout, oui, c'est Dieu. En honorant nos parents, nous honorons celui qui les a créés, parce que c'est lui qui leur a confié ses responsabilités. Et il y a une chose intéressante que nous voyons dans les Écritures, c'est que l'honneur amène l'honneur. C'est-à-dire que celui qui honore quelqu'un, lui-même va être honoré par rapport à ce qu'il fait et par rapport à son attitude d'honorer ses parents. Dieu n'honorera pas ceux qui refusent d'obéir à ses commandements. Mais voilà, Dieu honore celui qui l'honore. Si nous désirons plaire à Dieu, si nous voulons être bénis, nous devons, oui, honorer nos parents, obéir aux parents, même si ce n'est pas facile, même si ce n'est pas toujours agréable, et même si souvent, on l'avoue, c'est au-delà de nos forces. L'obéissance et l'honneur que les enfants doivent à leurs parents, c'est quelque chose de juste, parce que ça correspond à ce que Dieu a donné comme instruction. Et puis c'est agréable à Dieu. Parce que Paul nous dit ici que pour une vie qui soit bénie par Dieu, nous devons tous élever notre relation avec lui à la première place. C'est lui hein, que nous voulons tout d'abord honorer et obéir. Et lorsque l'on fait cela, le reste va couler de source. Si nous aimons vraiment Dieu, si nous aimons vraiment le Seigneur, à ce moment-là, oui, on va consacrer notre vie à nous efforcer de lui faire plaisir. On ne va pas y arriver tout le temps. Nous avons tous encore des luttes hein, avec le péché. Nous avons tous peut-être encore des habitudes hein, qui sont attachées à nous et que nous devons mettre à mort, hein, ce vieil homme que nous devons mettre à mort dans notre vie, qui nous influence spirituellement. Mais voilà, Dieu veut notre bien. Et lorsque nous nous appliquons à suivre sa volonté, nous lui sommes agréables. Christ lui-même a dit, Jean 14, 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » C'est-à-dire que la manière que nous avons de pouvoir montrer notre amour à Dieu, c'est effectivement de suivre eh bien, les instructions qu'il nous donne. Non seulement notre plaisir sera de lui faire plaisir, mais notez également que Dieu honore et bénit ceux qui suivent sa volonté. Paul, dans le deuxième verset ici d'Éphésiens 6, il souligne l'importance d'honorer ses parents parce que c'est le premier commandement accompagné d'une promesse. En réalité, c'est le seul des 10 commandements qui est accompagné, hein, qui montre les bénéfices, les bienfaits d'obéir à ce commandement. L'honneur, en fait, est si honorable que Dieu lui-même l'a mis en avant avec cette promesse. Certains ont estimé le nombre de promesses dans les Écritures à quelque chose d'environ de 30 000 promesses. Des promesses que l'apôtre Pierre qualifie comme étant les plus grandes et les plus précieuses. Mais la promesse ici que nous trouvons dans Éphésiens 6, au verset 3, elle est liée à quoi ? Elle est liée à la qualité de vie. Elle est liée au bonheur. Cette qualité de vie que Dieu donne à ceux qui honorent sa loi, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Je crois que nous tous, nous désirons de manière naturelle vivre une vie qui soit tranquille, qui soit paisible, une vie qui soit heureuse et de pouvoir vivre longtemps afin de bénéficier le plus longtemps de toutes ces bénédictions, n'est-ce pas ? Mais ce commandement ici donc est accompagné d'une promesse, en fait d'une double promesse, que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Même si ces bénédictions ne sont pas toujours visibles. Une famille où parents et enfants vivent eh bien, dans l'amour de Dieu, l'amour pour Dieu, l'amour les uns pour les autres, où cette soumission que Dieu exige pour que cette structure puisse être solide et bénéfique, ben c'est dans ces cas-là que la paix, la joie, la satisfaction que seul Dieu peut donner, eh bien nous la trouvons. Mais attention, déshonorer ses parents n'est pas son conséquence. Alors oui, Paul ici, il parle des bénéfices et des bénédictions de l'obéissance et de l'honneur, mais comprenez aussi que lorsque nous ne faisons pas cela, ce n'est pas sans risque. Peut-être vous le saviez, mais l'une des raisons pour lesquelles Dieu a envoyé son peuple en exil à Babylone était notamment le manque de respect envers les parents. Ézéchiel chapitre 22, verset 7 nous dit qu'on trouvait en Israël, au-dedans de toi, on méprise père et mère, on maltraite l'étranger, on opprime l'orphelin et la veuve. Plus loin, chapitre 22 et verset 15, « Je te disperserai parmi les nations, je te disséminerai en divers pays et je ferai disparaître ton impureté du milieu de toi. » Ça, c'est un exemple. L'exemple, on va dire, négatif, qui doit aussi nous interpeller à comprendre qu'on doit prendre ces choses avec le plus grand sérieux, parce que Dieu, oui, il bénit celui qui obéit, mais il applique aussi sa justice dans le cas inverse. Et tout autant qu'il soit important de souligner donc les bénédictions qui accompagnent ce commandement, il faut, oui, souligner le danger de la désobéissance. Deutéronome 27,16, « Maudit celui, soit celui qui méprise son père et sa mère. » Proverbe chapitre 15, verset 20, « Un fils sage fait la joie de son père, et un homme insensé méprise sa mère. » Ou encore, Proverbe 4, les quatre premiers versets, « Écoutez, mes fils, l'instruction d'un père, et soyez attentifs pour connaître la sagesse, car je vous donne de bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement. J'ai été un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait alors et il me disait que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes et tu vivras. » Donc, on a ici, effectivement, eh bien, des raisons importantes de vouloir obéir et honorer nos parents, parce qu'avant tout, nous voulons obéir et honorer Dieu. Mais je crois qu'il y a une troisième chose ici à souligner. C'est qu'il y a une impulsion importante dans la vie de l'enfant pour permettre cela. Et ça, c'est le verset 4. « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Ce qui va jouer un rôle majeur pour aider l'enfant à vivre pour le Seigneur, à suivre ce commandement, c'est la manière dont les parents vont traiter leurs enfants, la manière dont ils vont les enseigner, ce qu'ils vont leur enseigner, la qualité aussi de notre relation avec notre Père Céleste, notre attitude vis-à-vis du péché. Ça, c'est l'exemple de vie chrétienne qui est déterminant et que nous devons poursuivre. Alors, je tiens à faire aussi cette précision-là. Parce que oui, ici, le verset 4 nous dit « Père, n'irritez pas vos enfants ». Et souvent, on se dit « Mais c'est intéressant ici que dans ces versets-là, où il est question des relations dans la famille, mais où est la mère ? Où est la maman ici ?» Alors, des petites choses intéressantes, parce qu'en fait, ce mot « père » dans le grec, il est également employé pour désigner père et mère. Dans l'épître aux Hébreux, il est employé pour parler des parents de Moïse qui ont caché l'enfant. N'est-ce pas? Retournez dans le livre de l'Exode. Qui est celui qui cacha l'enfant? Elle le cacha. Okay? Donc, on comprend que ce terme père, c'est pas simplement nous les papas, hein, parce que je crois que pendant longtemps, on a vu ce verset et puis on a cassé un peu du sucre sur notre dos, là. Mais en fait, ce sont aussi les mamans, père et mère, parents. D'accord? Mais voilà, notre exemple, il est important. Il est important parce que ce que nous enseignons à nos enfants, ça va être répété. Et ça va être, on va dire, multiplié, si vous voulez. Un prédicateur anglais du 19e siècle, J.C. Ryle, il a dit ceci. Lorsqu'une génération tolère le péché, la suivante le célébrera. Et celle d'après ne saura même pas que c'est un péché. Et c'est pour ça que Paul ici dit, oui, père, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant, encore une fois, selon le Seigneur. Donc oui, ici, Paul, il instruit sur cette relation hein, parent-enfant, hein, des responsabilités que nous avons. Et donc l'exemple, en tant que parent, constitue un élément primordial dans la vie spirituelle de l'enfant. Ce que nous montrons dans notre vie spirituelle va se voir également dans celle de nos enfants. Et donc oui, il donne ici deux commandements. N'irritez pas vos enfants et élevez-les en les corrigeant. Ne pas hériter, ne pas être une source d'être plutôt une source de calme et de patience est quelque chose d'important. Et souvent, là où il y a cette irritation, c'est surtout la période de l'adolescence, n'est-ce pas? Période de l'adolescence où, oui, l'enfant grandit, hein, il est en marche vers l'âge adulte, vers la maturité, il a des idées naturelles, mais aussi certaines qui lui ont été transmises de vouloir être indépendant, hein, et de vouloir décider pour lui-même. Et beaucoup de conflits sont liés à cette période de l'adolescence. Peut-être que vous connaissez... L'écrivain Mark Twain, hein, celui qui a écrit Tom Sawyer, Huckleberry Finn, etc., il a dit ceci, et je trouvais ça tellement intéressant et marrant à la fois. « Quand j'avais 14 ans, mon père était si ignorant que je pouvais à peine le supporter. » Ok, je crois que là, ça résonne à l'oreille de beaucoup d'adolescents, et peut-être ça ramène quelques souvenirs que nous avions de notre adolescence, n'est-ce pas? Mais il dit ensuite, « Mais quand j'ai eu 21 ans, j'ai été étonné de tout ce qu'il avait appris en 7 ans. Bon, » son père n'a rien appris. En fait, c'est lui qui a compris finalement les choses que son père cherchait à lui enseigner. Et donc là, avec une certaine pointe d'humour, il a su communiquer hein, comment à l'adolescence, ce regard que nous portons hein, sur nos parents, il est biaisé par notre suffisance naturelle, orgueilleuse, notre désir d'indépendance par rapport à cette autorité parentale. Mais surtout, une fois à l'âge adulte, on se rend compte de ce que c'est que d'être un adulte. On se rend compte des responsabilités et des difficultés. Et on se rend compte petit à petit que la manière d'agir et de faire de nos parents, je comprends maintenant. Et donc, déjà, avant tout, parents, adolescents, aimez et soyez patients. Soyez patients. Regardez-vous chacun à la lumière des Écritures, de la parole de Dieu. Et ça, ça va vous amener déjà à faire une chose. Ça va vous ramener, que nous soyons parents ou enfant, a plus d'humilité et d'honnêteté. Ah oui, il est vrai que les pères ont cette fâcheuse tendance à être une source d'irritation pour leurs enfants. Le mot « irrité » ici, en grec, implique l'exaspération, la frustration. Et concrètement, ce que Paul dit, c'est qu'il faut éviter les comportements que nous aurions en tant que parents, eh bien, qui vont être injustes, qui vont être cruels, ou qui vont favoriser un enfant plus que l'autre, et qui va provoquer l'irritation. Mais voilà, pour ceux qui craignent Dieu, eh bien, nous devons ne pas pousser les enfants vers cette irritation, vers cette colère. Pourquoi? Déjà parce que la colère, les Écritures nous enseignent qu'il y a une bonne colère, mais il y a aussi une très mauvaise colère qui conduit vers le péché. D'ailleurs, dans cette même épître, au chapitre 4, verset 26, Paul dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Donc, on devrait avoir pour objectif de veiller à ce que nos enfants ne tombent pas dans le péché. Mais si nous, nous devenons la source, hein, le tremplin, l'élan vers qui va amener l'enfant vers cette colère que Dieu condamne, nous sommes responsables. Et ça résulte donc d'une mauvaise disposition de cœur, d'un mauvais état d'esprit, parfois de méthodes inappropriées pour enseigner, pour corriger. Hein, parfois, certains sont vraiment durs, ou ils ont des exigences cruelles, des restrictions inutiles. Alors, je tiens à préciser, parfois, les restrictions et la dureté des choses, ou même l'estime cruelle, l'aspect cruel de la chose, aux yeux de l'enfant, ne sera pas la même que nous, parents, nous avons. Okay. Mais voilà, lorsque ça vient d'une volonté égoïste d'imposer mon autorité parce que moi je suis le parent, ça ne va pas apporter les fruits qui vont être bénéfiques et qui vont honorer Dieu. Une telle attitude suscite donc des réactions négatives et étouffe l'affection des enfants, va diminuer leur désir, leur aspiration à même vouloir suivre Christ. Parce qu'il faut bien comprendre que, voilà, notre témoignage en tant que parent a un rôle important dans la décision de l'enfant à vouloir suivre la parole de Dieu. Un parent qui est sage cherche l'amour, la douceur, et il cherche à rendre l'obéissance comme quelque chose de désirable, comme quelque chose d'accessible. N'oublions pas que nos enfants, oui, sont les premiers témoins de notre propre vie spirituelle, de ce que nous nous plaçons comme priorité dans notre vie et dans notre manière de vivre. Et je crois que ce qui va venir probablement en premier dans la liste des choses que les enfants peuvent reprocher à leurs parents, je crois que l'hypocrisie se trouve tout en haut de cette liste. C'est-à-dire que des parents qui agissent d'une manière à la maison et d'une manière totalement différente en présence de chrétiens. Ça va immanquablement susciter de l'irritation, du mépris pour les parents et éventuellement pour Dieu lui-même. Donc nous devons veiller à vivre notre foi d'une manière qui soit visible, honnête, d'une manière qui va susciter donc chez l'enfant ce désir de vraiment vouloir connaître le Seigneur et de vouloir vivre pour le Seigneur. De les éduquer, selon le Seigneur. C'est ce que Paul parle ici, au verset 4. Élevez-les, développez leur conduite dans tous les aspects de la vie. Et cela par l'instruction et l'exhortation du Seigneur. Donc ça englobe tout ce processus d'éducation, de discipline, hein, de faire les choses de manière constructive et non pas humiliante, de montrer l'importance des responsabilités, des devoirs que nous avons devant Dieu, dans la famille, dans la société, dans l'Église. N'est-ce pas? Et donc nous, parents, nous placer dans ce rôle d'instrument entre les mains de Dieu pour amener cet enfant à vraiment connaître le Seigneur et vivre pour lui. Alors oui, éducation, instruction, correction, parce que là aussi, il faut corriger ce qui ne va pas pour que, comme lorsqu'ils étaient tout petits et qu'ils ont appris à marcher et à courir, hein, et qui vont dans une direction qui peut être dangereuse. Et puis, alors nous, on va vite se précipiter pour attraper la main et corriger la direction, n'est-ce pas, pour qu'il soit dans un chemin qui soit sûr pour lui. Et l'idée ici est la même. Hein, le mot que Paul donne par instruction également, ça signifie c'est mettre dans l'esprit. Et ça contient cette idée donc de correction. De la même manière qu'un prof va enseigner un cours, il va donner des devoirs, il va corriger les erreurs pour que ces erreurs soient effacées et que l'instruction soit bien comprise, n'est-ce pas? Donc une discipline, une instruction juste ne peuvent se trouver que dans le Seigneur. C'est pour ça qu'il dit « selon le Seigneur ». Si nous cherchons par nos propres méthodes et par nos propres exigences ou nos propres volontés que les choses doivent être de telle manière, etc., on risque l'échec. On risque l'échec. Donc tout ce que les parents font pour leurs enfants doit être accompli en lui, par lui et pour lui, selon le Seigneur. Et ça, c'est quelque chose qui s'apprend par notre propre relation avec le Seigneur. Parce que le Seigneur lui-même nous instruit. Le Seigneur lui-même nous corrige. Hein, le proverbe là, qui aime bien châtie bien, ben, ça vient de la Bible. C'est Dieu. Dieu nous aime. Et une des manières dont il nous montre cet amour, eh bien, c'est de corriger ce qui ne va pas chez ses enfants. Et donc, si le père, la mère, eh bien, sont fidèles en tant que modèle, ce que les enfants vont apprendre de Dieu, eh bien, ça va les aider à vouloir cela pour leur propre vie également et à suivre le Seigneur. Pour conclure, je tiens juste aussi à noter l'importance pour nous en tant que famille chrétienne de faire les choses selon le Seigneur. Lorsque Paul il a écrit à Timothée pour la seconde fois, il a brossé le portrait d'une société ayant l'apparence de la piété, mais qui reniait ce qui faisait la force de la piété. De Timothée 3, versets 1 à 5, et vous connaissez ce passage également, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Je crois que on a ici le portrait de ce qui se passe lorsque déjà la société ne suit plus la structure donnée par Dieu, mais quand la société ne s'appuie pas sur ce qui fait vraiment la force de cette structure, à savoir la connaissance de Dieu, la vie par l'Esprit Saint. Lorsque les familles chrétiennes elles-mêmes se détournent de la vérité, se détourne de la structure et du concept que Dieu a établi pour les relations dans la famille, c'est ce vers quoi on se dirige. Le monde cherche la justice, il rejette celui qui est juste pourtant. Il cherche la paix, mais il rejette celui qui est la paix. Il cherche l'amour et il rejette celui qui est amour. Ce que l'on voit constamment, c'est à travers les siècles, le monde pécheur qui a même cherché à parodier la justice, la paix, l'amour, qui s'en donne l'apparence, mais le contenu est complètement corrompu. Pourquoi ? Parce qu'ils ont renié ce qui en fait la force. Alors, ici, à titre d'encouragement, mais aussi d'avertissement, nous devons, nous, en tant que parents, aussi veiller à ne pas renier justement ce qui fait la force de la famille selon le plan de Dieu. Et ça, c'est un choix de notre part. Alors oui, on sait qu'il y a des moments où on échoue en tant que parent. Et quand on échoue en tant que parent, on se rappelle aussi combien de fois on a échoué en tant qu'enfant. Ça, c'est la réalité de notre vie. C'est que nous sommes des personnes qui sont faibles naturellement. Mais n'oublions pas que en Christ, nous avons la force de pouvoir corriger cela, de pouvoir être des enfants obéissants et qui honorent, de pouvoir être des parents qui aiment tendrement et qui donnent ce cadre paisible à la maison, d'une instruction qui est bonne, de pouvoir éduquer, de pouvoir élever, de pouvoir corriger ce qui ne va pas. Nous pouvons le faire par celui qui nous fortifie. Et ça, c'est la clé. C'est la clé que parents et enfants, toutes nos relations que nous avons dépendent avant toute chose de la relation que nous avons nous-mêmes individuellement avec le Seigneur. Et lorsque nous manquons à cela, ben c'est là où nous faisons les mauvais choix. C'est là où en tant qu'enfant on désobéit et on n'honore pas. C'est là où en tant que parent on finit par irriter et on finit par délaisser nos responsabilités. Et donc veillons. Donc je tenais juste à vous encourager ce matin par ces versets de la parole de Dieu et vous encourager donc chacun à tenir ferme, enfants, parents, tenir ferme, persévérer dans l'exemple que Dieu nous donne dans sa parole. Prions.